Je tremble un peu devant le texte que nous allons lire. Je vous invite à vous tourner de suite avec moi. Quelques 800 ans avant la venue de Jésus-Christ avec le prophète Ésaïe. En Ésaïe 6. Tournons-nous vers la parole du prophète qui est là, Ophi, la parole de notre Dieu. Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les jambes et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils s'appelaient l'un l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les soubassements des portes frémissaient à la voix de celui qui appelait et le temple se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, car je suis perdu. Car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ?» Je répondis, « Je suis là. Envoie-moi. » Il dit alors, « Va dire à ce peuple, écoutez toujours, mais vous ne comprendrez rien. Regardez toujours, mais vous n'apprendrez rien. Engourdis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, ferme-lui les yeux de peur qu'il ne se voit, qu'il ne voit de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles, que son cœur ne comprenne. » Qui ne revienne et ne soit guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur ? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient saccagées sans habitants, les maisons sans hommes et les terres saccagées, dévastées. Jusqu'à ce que le Seigneur ait éloigné les hommes et que les pays soient tout à fait abandonnés. S'il y reste encore un dixième de ses habitants, il repassera par l'incendie. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche, quand ils sont abattus, sa souche donnera une descendance sainte. Quel est le plus grand problème de ma vie? Quel est le plus grand problème de nos vies? Un sondage est paru il y a quelques années, en 2015, et pour près de la moitié des Français, la moitié d'entre eux considèrent qu'ils passent à côté de leur vie. Si nous sommes un échantillon de ces Français, peut-être qu'il y a 50% d'entre vous qui pensent passer à côté de leur vie. Certains trouvent qu'ils manquent toujours de temps, d'autres n'arrive pas à faire ce qu'ils devraient faire par procrastination. Beaucoup ne se sentent pas à leur juste valeur. D'autres ne se sentent pas bien dans leur corps. Et même certains ont envie de tout envoyer bouler. Certains semblent même avoir raté leur vocation. Alors on se console, un peu comme on peut. On court parfois pour oublier au sens figuré comme au sens littéral. D'ailleurs, je cours un peu parfois. On se projette dans l'avenir en espérant que celui-ci sera meilleur. Et parfois même, on sombre dans la dépression. On essaie parfois d'adopter un comportement positif, profiter de tous les bons moments, de toutes les bonnes rencontres, même si parfois on n'en voit pas beaucoup devant soi. Et pour ceux qui n'ont pas l'impression de rater leur vie, les 50 autres pourcents, la vie peut-être leur sourit, ils ont peut-être un job bien payé, une femme super, tout ce qu'il faut, peut-être pas de problème. Eh bien, vous savez, le peuple de Juda, à qui le prophète Ésaïe s'adresse, étaient ces personnes. Le pays était prospère, puissant, bien armé. Pourtant, cette situation ne profitait pas à tous. Peut-être léger sentiment actuel des Gilets jaunes. Une minorité s'était appropriée une grande partie des terres et une autre partie du peuple était opprimée. Le bonheur se fait d'ailleurs souvent au détriment des autres. Le réquisitoire du prophète Ésaïe que l'on a parcouru est sans appel déjà depuis ces 5 premiers chapitres. Tout se passe bien pour vous, dit Ésaïe, mais vous êtes des criminels. Tout est corrompu chez vous. Dans votre pays, la corruption, la violence, l'injustice y règne, même vos dirigeants le sont. Vos célébrations, et c'est le prophète, on l'a lu au chapitre 1, vos célébrations, j'en ai tout simplement horreur. Elles sont la manifestation de l'hypocrisie. Vous ne vous confiez pas en Dieu, et c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Ésaïe. Mais dans tout ce que vous possédez, Dieu est profondément déçu. Vous vous étiez engagé avec lui dans le cadre d'une alliance, d'un mariage, on peut dire, vous promettant l'un l'autre fidélité, loyauté, amour, et au final, Dieu avait rempli sa part du contrat, mais vous, vous ne l'aviez pas rempli. Les apparences sont parfois trompeuses. Tout semblait aller bien pour ce peuple, alors que tout allait très mal. Dans ces circonstances, Dieu, Ésaïe, pardon, je ne sais pas trop comment faire la distinction, mais Ésaïe nous partage sa vision, sa révélation extraordinaire de Dieu. Celle qui l'anime depuis le premier chapitre, au verset 1, on le voit. Mais pourquoi a-t-il attendu 5 chapitres pour nous la partager ? Tant que l'on n'aura pas saisi cette question, on n'aura peut-être pas compris le message du prophète. Parce qu'elle est la réponse fondamentale au problème du peuple. Comment Dieu peut-il être le Dieu de ce peuple alors que celui-ci l'a rejeté ? La réponse est donnée dans cette révélation du prophète. Ce que Dieu a fait pour Ésaïe, il souhaite le faire pour son peuple. Ce que Dieu a fait pour Ésaïe, il souhaite le faire pour son peuple. Mais cela implique 3 choses. Une nouvelle rencontre avec Dieu. Une nouvelle prise de conscience du péché. Et une nouvelle vocation. Alors que le peuple de Juda était particulièrement reconnaissant pour son roi et ses réalisations à laquelle il tirait une grande gloire et un honneur, Ésaïe, au verset 1, enregistre un drame, toujours le même, la mort de ce roi. Et pourtant, dans la même phrase, il enregistre une autre réalité. Alors que le roi Ozias est mort, un autre roi règne. Chez ce peuple, l'augmentation des biens matériels avait entraîné une perception amoindrie de Dieu. de sorte que les gens se sentaient confortés dans leur péché en accomplissant des rites appropriés. Mais le Seigneur, verset 1, le véritable roi, celui qui est assis sur un trône, verset 1, très élevé, verset 1, est entouré d'une cour céleste, ces êtres un peu bizarres, même les commentateurs ne savent pas trop bien de quoi il s'agit. Nos traductions, ils ont retranscrites même depuis l'hébreu, les séraphimes, les brûlants littéralement, ces êtres flamboyants autour d'eux, entourés d'ailes qui ne leur servent même pas à voler, mais à se couvrir de cette sainteté irradiante du Seigneur. Esaïe voit le Seigneur tel qu'il est, hors de portée de toute manipulation. Son trône est élevé. On est loin, très loin de ces films où la rencontre avec Dieu est douce et apaisante, ne froisse pas, où elle laisse place à la perplexité, à la confusion, au silence de l'indicible. Ces êtres parlent, louent, manifestent une déclaration qui fait trembler le temple, nous dit le texte. Aucune autre alternative. Là, plus de discussion. C'est d'ailleurs la seule qualité de Dieu qui est répétée à 3 reprises, et on pourrait le retranscrire comme ça. Saint, vraiment saint, vraiment très, 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 très saint. Il est le roi, non pas seulement d'une petite contrée, de campagne, mais bien de l'univers. Rien n'échappe à son regard, à sa souveraineté. Toute la terre est remplie de sa gloire. Sa sainteté renvoie à son caractère, on a pu en parler tout à l'heure, est inaccessible, transcendant, mais pas uniquement, il est aussi juste dans toutes ses voies. D'ailleurs, cette révélation ressemble à d'autres dans l'Ancien Testament, notamment Moïse, sur le mont Sinaï, et je vous invite à vous aller voir un jour dans Exode. Essayez peut-être de ressentir, si vous avez déjà monté en haut d'une montagne, vous avez gravi un sommet mais qui était vraiment pentu, vous avez atteint 1200 mètres et vous êtes sur la crête de la falaise. Et là, vous faites face à un pic de plus de 500 mètres sous vos pieds, avec un vent froid qui vous glace. Et vous ressentez un côté majestueux devant ce qui est devant vous. Un côté extraordinairement magnifique, mais majestueux. Waouh ! Esaïe a été ébloui par la splendeur de la sainteté de Dieu. Cette rencontre a changé toute sa vie. Tout son ministère en aura été bouleversé. Dieu, dans sa bouche, et je caricature un peu, mais ne pourra plus que s'appeler le Saint d'Israël. La mention de ce titre, elle est omniprésente dans le livre d'Ésaïe, alors qu'ailleurs elle n'y est pas. Et ce que Ésaïe veut, ce que Ésaïe a vu, il veut que son peuple le voie aussi. Alors je ne sais pas si vos nombreuses peut-être années de vie chrétienne vous ont épargné cette vue, Esaïe. Comme avec ce peuple d'Israël, ça faisait des siècles qu'il se disait le peuple de Dieu. Esaïe demande à ce que vous leur regardiez en face, comme nous sommes invités ce matin à regarder en face cette sainteté de Dieu. Une manière de redécouvrir notre Dieu. Et quand Esaïe fait face à sa présence, est-ce qu'il se blottit dans ses bras? Est-ce qu'il le contemple silencieusement? Est-ce qu'il se dit qu'il va pouvoir monnayer cette rencontre plus tard? Non. La vision de Dieu engendre une terreur. À sa première réaction, je pourrais traduire, je suis foutu. Je suis perdu. Malheur à moi. pas un sentiment de fierté, mais un terrible sentiment de peur. Je pense que Ésaïe a ressenti une sensation similaire à celle qui peut nous envahir quand nous sommes en train de critiquer une personne et que celle justement on est en train de critiquer se pointe juste derrière nous et vient d'entendre ce qu'on vient de dire. C'est la confusion. Peut terroriser d'avoir été démasqué. La seule réaction du prophète. Malheur à moi, car je suis perdu. Cette conviction, ce malheur à moi, l'amène à une confession. Pour quelle raison, nous dit le texte ? Parce que je suis un homme aux lèvres impures. Mes yeux ont vu le roi, verset 5. Sans doute sans que Dieu ne dise rien. Et Ésaïe est en train d'imaginer ce que Dieu est en train de faire devant lui. Il est en train d'opérer une scannerisation complète du passé et du présent de son être. Le scan des actes, des paroles, des attitudes, des motivations, des pensées, du temps perdu, de la rébellion que nous cachons souvent au fond de notre cœur. Tout est scanné. Et il dit « Malheur à moi ». Je suis perdu. Même si ses péchés à Ésaïe étaient moins graves que ceux du peuple, face au Dieu parfait, pur, être moins pire ne sert malheureusement à rien. Notre condition véritable d'homme pécheur n'apparaît pas dans la comparaison vis-à-vis des autres, mais bien uniquement face à Dieu. L'addition est à 26 euros. Et si nous n'avons que 23, nous ne pouvons pas payer. Avec Dieu, il nous manque toujours de l'argent. Nous sommes toujours en débit et jamais en crédit. Nos lèvres sont touchées. Une manière de dire notre cœur est touché, puisque quelqu'un dira plus tard, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Le constat est là devant un Dieu saint. Nous sommes perdus. Sa présence ne nous est pas accessible. Nous sommes séparés de Dieu. C'est la confession à laquelle nous sommes contraints de faire, dit Ésaïe. Et d'une certaine manière, il y a une certaine désespérance, un certain désespoir qui apparaît alors chez le prophète. C'est la conviction qui l'amène à une confession. Loin de se dissocier de son peuple, Ésaïe, au verset 5, s'associe à lui pour l'inviter à le suivre, pour que lui-même aussi puisse prendre conscience de ce malheur et de cette nécessaire confession. Prise de conscience. Cette prise de conscience, d'ailleurs, n'a d'ailleurs rien à voir avec la fausse culpabilité d'une faute que l'on subit ou que l'on nous a fait subir. Là, ici, dans ce qu'il est question, c'est d'une culpabilité objective, par exemple, comme le nécessaire ou ce que l'on peut souvent constater dans nos vies, le manque d'amour qui nous envahit à chaque instant, quand notre intérêt personnel est placé avant celui des autres, dans notre couple, dans notre famille, dans notre travail, dans nos relations. Comment alors faire face à cette réalité ? Peut-être en arrêtant de se voiler la face, en faisant face comme Ésaïe à son péché et à Dieu. La manière que l'on peut vivre ça aujourd'hui, c'est en faisant face à sa parole, la parole de Dieu saint. Mais Dieu ne laisse pas ceux qui ont crié malheur à eux. Dieu ne les laisse pas comme ça. Au contraire, ceux qui ont dit malheur à eux et qui ont confessé leur perdition, leur état, non, à ce moment-là, et c'est là, et c'est extraordinaire ce que Isaïe est en train de vivre pour un hébreu du 8e siècle avant Jésus-Christ. Isaïe voit cet être bizarre, ce brûlant, lui toucher la bouche avec une pierre chaude, une braise qui vient de l'autel, et il lui dit, cet être, ta faute est enlevée. Ton péché est expié. Cette braise vient de l'autel où l'on offrait des sacrifices pour obtenir le pardon des péchés. Mais comment est-ce possible, doit penser Isaïe. Il ne le dit pas, mais tous les sacrifices de l'Ancien Testament ne permettaient que de couvrir les fautes involontaires. Moi, mes fautes sont volontaires. Mais là, d'un rite inconnu, la faute d'Ésaïe est enlevée. Son péché est couvert, pardonné. La colère de Dieu, la sainteté de Dieu est satisfaite. Ésaïe n'est plus souillé. Mais dans cette intervention, tout est venu de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a pourvu. On s'attendrait même à une parole de Dieu lui-même. Ben non. Ce sont des êtres qui proclament le pardon, qui proclament que la faute a été couverte, que le sacrifice a été payé. La simplicité nous surprend. Rien à faire. Pas de pénitence, pas de pèlerinage, pas 6 mois de jeûne, 25 Ave Maria, 40 000 Notre Père. Non, juste la profonde conviction du péché devant le Dieu Saint. Là n'est plus d'ailleurs question de se justifier. Ici, en présence de Dieu, c'est Dieu qui justifie, et lui seul. Ainsi, la confession est de manière paradoxale de son malheur, de sa conviction, ouvre la voie à la grâce imméritée de Dieu. La seule attitude qui nous permet d'accéder à Dieu, de renouer une relation avec lui, c'est la confession de notre état. Comme un enfant au cœur malade qui attend désespérément une transplantation cardiaque, l'homme attend cette transplantation cardiaque et la reçoit seulement lorsqu'il confesse son cœur malade. Cette simplicité peut paraître étonnante, voire même d'un certain côté incroyable. Et d'un certain côté, un obstacle alors se dresse. Elle atteint beaucoup. C'est surtout la réaction de ceux qui ne croient pas véritablement que Dieu puisse les pardonner. Parce que leur péché est trop horrible pour eux. J'ai tellement entendu de personnes qui se pensent indignes du pardon de Dieu. Indignes d'être pardonnées. Certains même demandent constamment pardon à Dieu, mais leur conscience du péché est telle qu'ils se sentent indignes d'être acceptés. Pourtant, aussi grave qu'ait pu être notre condition, quand la confession est sincère et réelle, le pardon est offert. Et Dieu pardonne, assurément et simplement. Le peuple de Juda doit faire la même expérience de pardon qu'Isaïe. Nous sommes tous convoqués à cette expérience de repentance. D'ailleurs, elle ne concerne pas seulement ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Ésaïe n'est pas seulement affranchi du péché. Un appel, une vocation lui est adressée. Et c'est notre dernier point. Alors, Dieu rentre en dialogue avec Ésaïe. C'est tout simplement énorme. Dans ce dialogue, le Seigneur lui pose une question, mais qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Le « nous » d'ailleurs représente la cour céleste. On voit, le « nous » c'est Dieu et tous ses êtres autour de lui. Et la question demeure. Et la réponse d'Ésaïe ne se fait pas attendre. Elle tranche d'ailleurs avec celle de Moïse pour qui il a fallu 10 signes, 2 aides et 1 coup de pied aux fesses. Là, même pour Gédéon, mais là Ésaïe, il répond de suite. « Je suis là, envoie-moi. » C'est énorme. C'est énorme. Comment lui qui a crié « malheur à lui, malheur à moi », il était sur le point de croire à sa mort imminente, se dit maintenant de suite prêt pour l'appel que Dieu lui demande, pour l'appel que Dieu lui donne. Et là, il répond favorablement et immédiatement à la mission de Dieu. Ésaïe est totalement restauré. Il est même immédiatement qualifié de la même manière, l'apôtre Paul, qui a été un persécuteur, un terroriste de l'Église chrétienne des premiers siècles, avec du sang sur les mains des chrétiens, devient un prédicateur principal dans ces églises. Je dois aussi vous raconter l'histoire de cet homme. Dans ses plus jeunes années de sa vie, il a littéralement pourri sa sœur. Il a rejeté ses signes d'affection, lui a rendu bien souvent du mal, pour le bien, a passé une grande partie de sa vie à se rebeller ouvertement à ses parents, a été hypocrite pendant plus de 10 ans. Cet homme n'a jamais demandé pardon. Ça, c'était pour les faibles. Cet homme, c'est moi. Et d'une certaine manière, comme le prophète Ésaïe, face à Dieu un jour dans une église, face à sa parole, j'étais mis à nu. Devant le péché de ma condition. Tous les chrétiens, les vrais, ont un jour, même s'ils ne savent pas le jour, pas forcément donner une date, on fait face à Dieu, à sa parole. Touché comme en plein cœur. Quand cela arrive, alors, Dieu n'a pas peur d'envoyer des pécheurs qui se repentent dans sa mission. D'ailleurs, il n'envoie que. Dieu ne laisse pas des chrétiens juste avec la prise de conscience du salut. Non, il les entraîne aussitôt dans sa mission. Comme Dieu a envoyé Ésaïe pour parler de sa part, Dieu veut envoyer son peuple pour qu'il soit la véritable lumière dans ce monde. Ainsi, les chrétiens sont qualifiés d'une certaine manière, comme Ésaïe, comme étant les missionnaires de Dieu. Là où ils sont, dans leur quotidien. Hashtag missionnaire dans mon quotidien. Pas forcément obligé de partir en mission à l'étranger pour être un missionnaire. Même si ça peut être le cas. Tous les chrétiens sont invités à être des missionnaires dans leur quotidien. Et vous savez, c'est très bien de donner, de prier pour la mission, mais notre responsabilité ne s'arrête pas là. Nous sommes envoyés comme missionnaires partout où nous vivons. D'ailleurs, notre manière de vivre en missionnaire dans notre quotidien, c'est comme l'un de mes amis, c'est vivre une vie qui suscite le questionnement. Une vie qui ne s'explique que par l'Évangile. D'ailleurs, à ce titre, quoi de mieux que raconter des vies qu'il incarne? Cette femme, un jour, elle a été bouleversée et elle est venue pour la première fois dans une église quand, après avoir fait une énorme boulette dans son travail, pas juste un petit truc là, mais un truc qui avait des fortes conséquences, son responsable, au lieu de l'accuser et remettre la faute sur elle, a endossé la responsabilité de la faute. Cette femme, elle a posé de suite la question, mais pourquoi t'as fait ça? C'est moi qui ai fait, c'est pourquoi tu l'as fait? Parce que Christ a pris lui aussi la faute que j'aurais dû porter. Un autre exemple, un homme qui ne délaisse pas sa famille et qui est prêt à accepter un peu moins d'avancement, un peu moins d'argent pour que ses enfants le voient, pour que ses enfants puissent avoir le temps de l'apprécier. Un autre exemple, un couple qui entretient des relations de voisinage ou dans son quartier, où il peut aimer ses voisins, les servir, simplement être missionnaire dans notre quotidien. C'est simple, d'un certain côté. Mais quel message Dieu a-t-il confié à Ésaïe? Là, on aimerait s'arrêter là et puis terminer le message. Le message est dramatique. L'écoute du peuple ne sera pas au rendez-vous. L'écoute du peuple, le message est dramatique. Et si on regardait le ministère d'Ésaïe au plan du résultat quantitatif, son ministère sera un terrible échec. Sa prédication sera un désastre. Non seulement il ne sera pas reçu, mais il produira l'endurcissement, l'opposition, la persécution, et il devra même mourir pour son message. Il sera le vecteur, d'un certain côté, du jugement de Dieu, dans une première partie. Et dans une deuxième, que nous verrons plus tard, de la grâce, de la réconciliation. Ésaïe était prêt pour ce jugement, il était prêt pour être envoyé, mais il ne s'attendait pas à un message pareil. Il ne s'attendait pas à recevoir un message qui ne serait pas entendu, qui ne serait pas reçu, et même qui aurait tendance à faire empirer les choses. Non pas forcément à cause du message lui-même, mais à cause des effets du message sur ses auditeurs. On mesure presque toujours la réussite. On essaye de la quantifier. L'église est pleine. L'audimat a dépassé les 20% de parts de marché. Vous avez reçu des encouragements, des félicitations, mais qu'en est-il réellement? Vous avez peut-être juste dit ce que tout le monde voulait entendre. Vous êtes satisfait, alors que peut-être vous êtes juste passé à côté du message. Ce texte, d'ailleurs, il est repris dans tous les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean, la deuxième partie, celle qui fait mal. La prédication de Jésus ne sera acceptée que par un petit nombre. Chez certains même, elle produira l'endurcissement, l'opposition, la persécution et aboutira à la mort de Jésus-Christ et à la mort de ses apôtres. De la même manière, nos paroles, nos actes ne recevront pas toujours un bon accueil, voire même l'opposition. Cela ne devrait pas nous étonner. Devant une telle situation, Ésaïe ose lever la voix. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Dieu lui répond, jusqu'à ce que le jugement ait produit tous ses effets sur la ville, sur les maisons, sur la terre, jusqu'à ce que le peuple soit même emmené en exil. Même le dixième des habitants restants ne subsistera pas. Si vous êtes troublé par un Dieu qui punit, peut-être qu'il faut revoir cette vision. Dieu n'est pas juste un grand Père Noël, Papa Gâteau, qui distribue les bonbons. Non, il est juste et sa justice s'exerce. Elle s'applique sur son peuple, premièrement d'ailleurs. Son peuple qu'il a rejeté. Toutefois, un mais reste planté au milieu de notre texte. Ces mets de Dieu font à souligner quand ils augurent, ils présagent un changement de la réalité tel que même la situation ne l'aurait pas permis de l'envisager. Une souche, quand l'arbre est abattu, une souche demeure sur laquelle une descendance sainte viendra, nous dit le texte. Le jugement de Dieu n'est pas le dernier mot de l'histoire. Ou du moins, il ne l'est pas pour ceux qui vont passer par l'expérience d'Ésaïe. Dieu prévoit un jour où il se constituera un peuple saint, par un serviteur saint. Mais n'en découvrons pas trop. Nous ne sommes qu'au début du texte d'Ésaïe. Ésaïe prend son temps pour dévoiler le plan merveilleux de Dieu. Le temps n'est pas immédiatement dans la consolation, mais d'abord à l'examen. En conclusion, si vous pensez que le Dieu de l'Ancien Testament n'a rien à voir avec le Jésus que vous connaissez peut-être, ou que vous avez commencé à connaître, je vous propose une autre lecture en Luc. Chapitre 5. Les premiers versets. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il qui se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et du bateau, il instruisait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans leur bateau de venir les aider. Ceux-ci virent et remplirent les deux bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. On était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent leur bateau à terre, laissèrent tout et le suivirent. Ce que Dieu a fait pour Ésaïe, Jésus l'a fait pour Pierre. Ce que Jésus a fait pour Pierre, l'a-t-il fait pour vous? Je vous invite à prier. D'une certaine manière, Seigneur, nous refaisons face à qui tu es avec ce texte. Conscient, comme naturellement nous oublions qui tu es, conscient presque immédiatement de ce malheur, première réaction face à cet parfait et nous qui sommes si loin de cette perfection. Et d'un autre côté, nous voyons que suite à ce malheur, cette confession terrible de notre état, tu nous accordes la grâce. Je prie, Seigneur, qu'un grand nombre soit messager de cette bonne nouvelle du pardon qui est fait pour des perdus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.